Ce matin, partagez-vous un thème qui pourrait s'intituler « Le ciel s'est ouvert sept fois ». Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, Genèse chapitre 28, à partir du verset 10, nous pouvons lire ceci. Genèse 28, verset 10. Je rappelle le titre. Le ciel s'est ouvert sept fois. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. J'aimerais donc ce matin partager, au travers de quelques exemples de la Bible, étayés par des expériences personnelles ou d'autres personnes, d'autres enfants de Dieu, j'aimerais rappeler que dans nos vies, bien souvent, nous avons soif. Enfin, c'était une bonne soif. Je ne dis pas seulement bien souvent, mais je pense que tout le désir de chaque enfant de Dieu, c'est cette soif de Dieu. Cette soif de Dieu, c'est la marque de Dieu, c'est la marque de l'action du Saint-Esprit au fond de nous, avoir faim et soif de Dieu. Mais il y a des moments dans nos vies où cette faim de Dieu, cette soif de Dieu semble être comme bloquée, j'allais dire. Nous avons une soif, mais rien ne vient la désaltérer. Nous avons une faim, mais rien ne vient la nourrir. Et des moments dans notre marche d'enfant de Dieu, nous sommes un petit peu comme Jacob. Jacob avait eu des problèmes, il en était d'ailleurs le fautif aussi. Mais c'était, j'allais dire, son désir spirituel d'avoir les bénédictions de Dieu qu'il avait mis dans cet état-là. Il avait truqué, donc, fraudé, dirons-nous, pour avoir le droit d'aînesse. Et cela a entraîné, parce qu'on ne reçoit jamais les bénédictions de Dieu par des méthodes fausses, la fin ne justifie absolument pas les moyens avec Dieu, eh bien, il avait fraudé et il a été obligé de fuir la haine de son frère. Sur la recommandation de son père et de sa mère, il fuit vers Charan, le pays des parents de sa mère. Et puis voilà qu'il est en route, il est tout seul et complètement, j'allais dire, un petit peu déboussolé. Il est dans la solitude, là, de la nuit, il se couche. Il ne sait pas trop où il va aller, il ne sait pas non plus ce qu'il attend, il ne sait pas non plus si un jour il va pouvoir revenir rejoindre ses parents. Et il est là, et c'est là qu'il a cette fameuse vision ou ce songe nocturne. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Ça voulait dire qu'ils étaient déjà avec lui et qu'ils remontaient et descendaient. Vous savez, pendant longtemps, sans faire attention, je disais toujours, ils descendaient, ils montaient les anges. Non, les anges montaient et descendaient. C'est-à-dire, déjà là, sans le savoir, alors qu'il se sentait humainement seul, Dieu était avec lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui parle, la voix de Dieu est réelle au travers de ce songe. Et j'aimerais comme compléter un petit peu de ce que j'avais dit l'autre jour. Lorsque dans nos moments de solitude, c'est souvent là que Dieu est le plus présent, c'est souvent là que Dieu est le plus proche. Souvent, nous disons, nous ne sentons rien, nous ne voyons rien. C'est par notre foi, la présence de Dieu est là par notre foi. Nous sommes gardés par notre foi. Nous ne sommes pas gardés par nos sensations, nous ne sommes pas gardés par la vue, nous sommes gardés par la foi. Et si je crois que Dieu est là, Dieu est toujours là, parce que Dieu honorera toujours ma foi. Cela est important, mais je ne voudrais pas insister, il y a des moments dans nos vies où nous avons besoin d'une parole de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre situation ce matin, mais il y a des moments où, désespérément, nous avons besoin de Dieu. Quand tout va mal, on est là, on cherche à droite, on cherche à gauche, on écoute ici, on écoute là. Et dans certaines situations, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais j'aimerais dire que Dieu est toujours là. Et dans les moments parfois les plus critiques, si nous savons nous y attendre, à un moment donné, vient la parole de Dieu. Je me rappelle... j'avais 23 ans, j'avais été à l'âge de 13 ans et demi, j'avais été guéri d'une infection généralisée. Mes parents avaient connu le plein évangile et s'étaient convertis, s'étaient engagés, s'étaient fait baptiser. Mais moi, personnellement, j'étais au lycée à Cannes, j'étais interne, on allait aux surprises parties, alors je n'avais, Dieu, c'était vraiment pas mon problème. Et je disais que ça allait bien pour mes parents, mais que moi, j'avais le temps, comme tout jeune qui pense un petit peu cela. Et j'ai fini mes études au lycée, puis je suis venu à Grenoble comme étudiant. J'avais fait droit, sciences politiques, et puis, mais, retrouvant mes copains de la côte, j'ai commencé une vie de plus en plus dissolue, finissant mon temps dans les boîtes de nuit, dans les surprises parties, etc. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, ils ne sont pas glorieux. À l'âge de 23 ans, je me suis retrouvé dans une situation lamentable. Mes notions de Dieu, j'avais tout balayé à un moment donné, j'avais soif de vivre, mais une vie qui finalement m'apportait à la fin que des ennuis. Je n'avais pas travaillé depuis des mois de mes 10 doigts, je vivais de toutes sortes d'expédients. J'étais pas très très intéressant, j'avais aussi des problèmes avec des filles, toutes sortes de situations lamentables. Et à l'âge de 23 ans, au moment où j'ai failli avoir des ennuis avec la police, j'ai quitté Grenoble. J'ai quitté Grenoble pour un temps pour me mettre au vert. Et avant de disparaître de la circulation, je suis passé dire au revoir à mes parents qui, eux, ne savaient pas ce qui se passait, mais qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mes parents qui continuaient toujours à prier pour moi. Et je sais que ma mère, elle insistait, donne ta vie à Dieu, je sais pas ce que tu fais, mais je sens que ça va pas, donne ta vie à Dieu. Je disais, mais fiche-moi la paix avec ton bon Dieu, j'ai pas besoin. Et c'est là que ce jour-là, en passant, et alors que je ne savais plus où aller, je ne savais plus quoi faire, j'étais carrément à la dérive, comme un bateau qui avait lâché ses amarres. Eh bien, pour la première fois depuis des années, ma mère m'a dit, fais-nous au moins une fois plaisir dans ta vie, accompagne-nous au culte. Et là, nous sommes allés à une église à Nice, à l'église Simiès à Nice, il y avait à peu près 500 personnes. Je me suis assis dans l'auditoire et prenant mon mal en patience, je voulais au moins une fois dans ma vie faire plaisir à ma mère et à mon père. Eh bien, je me suis assis et j'ai écouté. Et pendant que nous étions là, que nous chantions, que les gens chantaient des cantiques, j'observais. Alors, tout à coup, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas, en plein désert, j'allais dire, à la fois spirituel, moral, à la fois matériel aussi. À ce moment-là, au moment où je me suis le moins attendu, à ce moment-là, Dieu a parlé. Mon père, à côté de moi, s'est mis à parler en langue. On m'avait beaucoup parlé de cette histoire-là, au temps de la Pentecôte, les apôtres réunis avaient reçu le don du Saint-Esprit, s'étaient mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, j'ai dit, et on m'a dit aussi, oui, mais de nos jours aussi, cela existe. L'Esprit de Dieu agit encore de nos jours. J'ai dit, bon, ça va bien, les gens, ils sont un petit peu là-dedans, hein. Du psychisme, de l'autosuggestion, on baragouine un petit peu. Et puis tout ça, voilà, ça va faire du blablabla, et voilà le parler en langue. Mais mon père, à côté de moi, je le connaissais. C'était un homme incapable d'une crise mystique. C'était pas du tout le gars, l'homme des azimutés. Il était vraiment quelqu'un de calme, il faut le dire. Hein. C'était pas du tout le genre de personne à s'extérioriser comme cela. Et quand je l'ai vu parler en langue, ça m'a interpellé. D'autant plus que pendant qu'il parlait, il me semblait que cela me concernait. Il a parlé pendant, je sais pas, 1 ou 2 minutes, je me rappelle plus très bien. Et il y a eu un silence dans cette salle. Et tout à coup, une dame que je ne connaissais pas a commencé à dire, tu es venu ce matin dans telle et telle situation dans ta vie. J'ai dit, tiens, elle parle à quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Je n'avais pas encore compris. Elle a dit, bon, et puis elle a continué, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci et tu as fait cela. Alors là, vous savez, c'était le boum. J'ai su, personne ne pouvait avoir vécu cela, j'ai su que c'était moi. Et à ce moment-là, un petit peu transposé, à ce moment-là, comme un petit peu Jacob, complètement déboussolé dans le désert. À ce moment-là, j'ai su que c'était Dieu qui me parlait au travers de cette femme. Ça ne s'explique pas, ça se vit. J'étais un bagarreur, je sortais des boîtes de nuit. Vous m'auriez, depuis des années, vous m'auriez rien, absolument jamais fait pleurer, hein. J'étais habitué à la dure. C'était la loi de la jungle, la loi du plus fort. Eh bien, mais à ce moment-là, j'ai su que le ciel était ouvert. J'ai su que Dieu était là. Et moi, hein, qui n'étais absolument pas habitué à ces choses-là, j'ai commencé à me recroqueviller sur ma chaise parce que j'ai eu peur de Dieu. Et cette personne a continué, elle a commencé toute ma vie à rebours, tout ce que j'avais fait, tous les moments. Rappelle-toi quand Dieu t'avait appelé. Je me rappelle, je m'étais perdu dans la neige et Dieu m'avait parlé là, perdu à moitié gelé. Dieu m'avait parlé là dans la neige. Rappelle-toi, elle me rappelait tout ça, c'était incroyable. Et plus elle parlait, plus je me ratatinais. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, mais personne dans l'auditoire ne savait que c'était de moi qu'il s'agissait. Alors des larmes que je n'arrivais pas à contenir ont commencé à monter à mes yeux. J'ai caché ma tête dans mes mains, faisant semblant de réfléchir. Mais devant cette présence de Dieu, je me sentais sale. Mais alors sale, je sentais que j'étais pourri jusqu'à la moelle des os. Et à ce moment-là, là, écrasé, j'ai commencé à parler à Dieu. « Mais Seigneur, tu sais que je ne peux rien faire. Tu sais que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de quoi gagner mon argent, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. » Je commençais à dialoguer avec Dieu. Et elle, cette dame qui prophétise, je ne sais même pas qui c'est, répondait à haute voix à mes prières intérieures. Vous savez, c'était incroyable. Il fallait au moins ça, je pense, pour me convertir. Hein? Mais... elle répondait, tu dis que tu ne peux pas, mais Dieu ceci. Elle me répondait chaque fois. Je veux pas insister, ça s'est simplement terminé comme cela. Si aujourd'hui tu laisses le Christ entrer dans la barque de ta vie et la diriger, il réglera tous tes problèmes. Je ne peux pas vous expliquer, hein. J'avais cette époque-là, 23 ans, je ne peux pas vous expliquer, mais là, quelque chose au fond de moi, c'est comme cassé. La puissance de cette prophétie a littéralement brisé le carcan qui était au fond de moi. Parce que depuis longtemps, je cherchais Dieu, je n'avais jamais pu trouver cela. Il fallait une force qui brise cela et plus tard je m'en suis rendu compte. C'était l'occultisme qui avait été pratiqué. Eh bien, mais là, la puissance de Dieu de cette prophétie a littéralement brisé la résistance qui était au fond de moi. Et là, j'ai craqué, je dis, Seigneur, je n'ai pas fait comme Jacob qui a dit, je te donne la dîme de tout si tu me bénis. Ouais, il était encore le marchandeur là. Hein? Non, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Pour moi, c'était terrible, j'abdiquais. Je suis relevé, je suis sorti, je suis revenu à Grenoble. Physiquement, j'étais le même homme, mais spirituellement, tout avait été changé. Je commençais à lire la Bible, je commençais à l'ouvrir, je passais des heures, des jours, des nuits à lire la Bible, à prier. J'ai eu soif de mettre ma vie en ordre. Je suis allé restituer à la douane, je suis allé voir la police, je suis allé rendre de l'argent que j'avais volé, je suis allé demander pardon à des gens. J'ai rectifié, j'avais une soif de pureté, un désir de réparer, un désir de mettre de l'ordre dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu agir dans le domaine. À 23 ans, je me suis retrouvé surveillant général dans le lycée. Je n'avais même pas les diplômes. Un lycée de 2000 élèves. Dieu était en train de me montrer que lorsqu'on lui répond, à ce moment-là, le ciel s'ouvrit. À ce moment-là également, les anges descendent. À ce moment-là, le surnaturel est intervenu dans ma vie. L'appel de Dieu que j'avais oublié, que j'avais eu à l'âge, donc au moment après ma guérison, eh bien cet appel-là est revenu. Et quelques années plus tard, j'ai démissionné. Je voudrais dire cela. Il y a des moments où il nous semble que tout va mal. Et c'est là, c'est à ce moment-là que nous, en tant que chrétiens, c'est là qu'il faut garder les oreilles ouvertes. Parce que Dieu choisit, ou plutôt Dieu se manifeste souvent dans ces moments-là, au moment où tout va mal, au moment où on a prié, on a demandé, on a attendu depuis longtemps, on n'a eu aucune réponse de Dieu, aucune parole de Dieu, aucun mot d'édification. Il semble que lorsque c'est au fond du trou, lorsque vraiment on lâche tout, c'est au dernier moment, à ce moment-là, ou au moment où on a tout lâché, c'est là que ça vient. C'est comme une balle de ping-pong, plus fort, vous la jetez à terre, plus elle monte haut. Et parfois Dieu permet qu'on descende très très bas dans notre vie, pour qu'à ce moment-là, la vie de résurrection, la plénitude de la réalité du Dieu vivant se manifeste alors. Et alors à ce moment-là, nous y sommes sensibles. Cela est valable avant notre conversion. Vous savez, il y a des gens, ils attendent, tout va bien, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais au moment où ça va plus mal, quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait l'argent, qui avait tout, qui réussissait dans la vie, monsieur, vous avez un cancer, à ce moment-là, c'est le boum, et tout stop. Un autre qui est content de son foyer, qui mène la vie, et puis boum, voilà, sa femme le quitte. Son mari la trompe. Voilà, c'est le coup, c'est la flèche au cœur. Et malheureusement, parfois, Dieu est obligé d'attendre. Je ne dis pas qu'il le veut. Il est obligé d'attendre parfois des situations les plus difficiles au fond du trou pour qu'enfin, on accepte, ou plutôt qu'on puisse être réceptif à ce qu'il veut nous dire. Et dans notre vie chrétienne aussi, parfois, il faut descendre. Dieu permet parfois que nous descendions très, très bas. Pourquoi ? Pour qu'enfin, nous puissions être ouverts à ce que peut-être depuis des mois et des années, il voudrait tellement nous dire. Mais j'aimerais dire ce matin, que ce soit dans la détresse, que ce soit dans la solitude, j'aimerais le dire, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas le temps d'insister. Une deuxième situation où le ciel s'est ouvert est celle-ci. Lorsque dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, dans l'évangile de Luc au chapitre 3, Jésus arrive vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Et ce récit nous dit qu'au moment où Jésus entre dans l'eau, Il est immergé. D'abord, Jean-Baptiste discute avec lui. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais ensuite, Jésus dit, écoute, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. S'il y a parmi nous quelqu'un ce matin qui n'est pas encore baptisé par immersion comme suite à sa foi, parce que Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé. Il n'a pas dit celui qui sera baptisé et qui croira. Donc, le baptême suit la foi. Le baptême est la conséquence de notre foi en Jésus-Christ. Eh bien, Jésus dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Eh bien, à ce moment-là, Jean-Baptiste baptise Jésus, immerge Jésus dans l'eau. Et cet acte d'obéissance de Jésus qui s'identifie ainsi à la race humaine, cet acte d'obéissance va faire que lorsque Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit du Seigneur descend sur lui et il entend cette voix de Dieu qui lui dit, celui-ci, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Nous avons là quelque chose de très important. Parfois, nous sommes toujours, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, à la recherche de la voix de Dieu. Chaque fois que le ciel s'ouvre sur notre vie, Dieu parle. Dieu te parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre, mais quand le ciel s'ouvre, la voix de Dieu se fait entendre. Mais ici, dans ce deuxième aspect de Jésus, c'est dans la vie de Jésus, nous voyons l'acte d'obéissance du Christ qui s'incarne et qui s'identifie à la race humaine. L'acte d'obéissance de Jésus va être la clé ou le moment, au moment où il obéit à cette direction de l'Esprit et à cette obéissance aux Écritures. À ce moment-là, le ciel s'ouvre. Et j'aimerais rappeler ce matin que dans nos vies d'enfants de Dieu, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et bien des personnes, hommes ou femmes, jeunes gens ou jeunes filles, désirent l'approche de Dieu, désirent voir la main de Dieu se manifester, désirent peut-être une délivrance, peut-être une guérison, désirent peut-être un appel au ministère, désirent peut-être être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, désirent peut-être aussi servir le Seigneur dans la manifestation des dons. Il y a tellement de choses qu'on désire et c'est juste que nous aspirions à ces choses-là. Mais je voudrais rappeler ce matin que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et que la désobéissance est aussi coupable que la divination. J'aimerais dire que ce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous les mettez en pratique, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'aimerais rapidement là aussi souligner l'importance de l'obéissance à ce que Dieu nous montre, soit dans sa parole, soit par son Saint-Esprit au fond de nous, dans notre conscience, dans notre compréhension des choses. Si nous n'apprenons pas à obéir, nous perdrons des bénédictions, nous risquons d'anéantir le plan de Dieu pour notre vie. Mais dans l'obéissance et par l'obéissance, le ciel va s'ouvrir, la voix de Dieu va se faire entendre, l'exaucement de Dieu va descendre, parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus l'a dit, le Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Plutôt l'apôtre Pierre a dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin insister sur l'obéissance. L'obéissance fidèle, la loyauté envers Dieu. L'obéissance aux Écritures dans la vie du Saint-Esprit. Dans la communion par le Saint-Esprit. Sans obéissance, il ne peut pas y avoir de bénédiction durable. J'ai vu des gens délivrés et retomber plus tard. J'ai vu des gens guéris et recommencer dans leur maladie. J'ai vu des gens être bénis et perdre le bénéfice de leur bénédiction. Parce que si nous ne restons pas, si nous demeurons pas en Jésus, et si ses paroles ne demeurent pas en nous, si nous ne vivons pas une marche d'obéissance dans la joie, dans la compréhension que si Dieu nous demande d'obéir, c'est parce que c'est pour notre bien, à ce moment-là, nous perdrons ce que Dieu nous avait donné. Et vous savez, souvent on discute sur les délivrances, on dit, voilà, on a prié pour lui, ça allait mieux, et puis c'est pas resté, donc ça valait pas la peine. Je voudrais répéter ce matin cette parole, cette vérité, il est plus facile de guérir quelqu'un et de libérer quelqu'un que de lui permettre de garder sa guérison, parce que le grand problème, c'est que notre vie personnelle est la seule garante de la manière dont nous pouvons garder une délivrance ou dont nous pouvons garder une guérison. Je voudrais le dire ce matin, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'un démon s'en va, il revient avec cet autre. Et les symptômes sont là parfois, la puissance du mal est là. Et parfois les gens disent, oh, ça, rien ne s'est passé, ça recommence, j'ai pas été guéri. Et tout est fichu parce que dès que vous dites, je ne l'ai pas été, ça rentre de nouveau. Et la bataille est là, c'est à la fois une bataille de foi, c'est à la fois aussi une bataille d'obéissance. Mais si tu sais ce que tu as reçu, si tu le maintiens, si tu gardes ton territoire, si tu maintiens ferme qu'en Jésus-Christ tu as été libéré, et si tu refuses maintenant ce choc en retour, si tu résistes au diable qui voudrait revenir, et parfois peut-être d'une façon beaucoup plus forte, si tu lui résistes avec une foi forte, ferme en proclamant, il est écrit parce que c'est comme ça que Jésus a résisté, alors tu verras le malin s'enfuir. Et ça, on ne veut pas le reconnaître parce qu'on se décharge toujours de nos propres responsabilités. Mes amis, je voudrais le dire ce matin, notre Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais dire que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais cette obéissance nous amène également à obéir à la voix de notre conscience. Il y a des moments dans notre... nous devons être fidèles à l'écoute de notre conscience jour après jour. Nous devons avoir une conscience sensible. Je vais simplement prendre un exemple. Il y a quelques années en arrière, nous sommes trouvés avec une équipe de jeunes, les jeunes de notre église, avant qu'on ait l'école biblique, nous avions fait un séjour en Afrique. Et une de nos jeunes, dans le car, alors que nous visitions la brousse avec un évangéliste africain, une de nos jeunes a fait une plaisanterie complètement bête et méchante. Je ne sais plus trop quoi ce que c'était. J'ai vu que cet évangéliste africain avait été blessé. Et je l'ai regardé, je me suis retourné en arrière, je l'ai regardé, elle a compris, elle a rentré sa tête, mais le mal était fait. Et quand nous sommes revenus à table, donc le soir, nous sommes retrouvés au repas. Et c'est là que je leur ai dit, vous venez, vous voulez évangéliser, vous voulez partager Jésus, mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est des dégâts, il valait mieux rester à la maison, c'est une honte pour l'évangile, c'est une honte pour ses amis africains. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur nous. La fille s'est mise à pleurer, elle est tombée à terre, prostrée, mais ça ne s'est pas arrêté là. À ce moment-là, tous les gars, toutes les filles, nous tous, on a été comme projetés à terre. Et là, on pleurait, on se rendait compte que finalement, on était venu avec notre culture, avec notre esprit de supériorité, avec peut-être nos réactions culturelles, etc. Et on se rendait compte que finalement, on avait raté le coche. Et Dieu nous avait interpellés, c'est pas qu'on était méchants, on pensait pas faire du mal, mais même nos réactions étaient contaminées par une culture qui était différente du pays qui nous accueillait. Bon, c'est à ce moment-là que Dieu nous a parlé. Je me rappelle toujours, j'ai dit, demain matin, nous allons faire quelque chose de particulier. Et le lendemain matin, j'ai demandé à un responsable de demander à tous les responsables des églises avec leurs épouses de venir l'après-midi pour une réunion que nous aimerions à laquelle nous aimerions les inviter. Et tout le monde était venu, il y avait à peu près 200, 300 personnes, hommes et femmes, tous les responsables de la ville. Et là, j'ai commencé à prêcher de Jésus, qu'il avait les pieds des disciples, se rendant serviteurs les uns des autres. J'ai parlé de Daniel qui s'était identifié au péché de ses pères pour demander pardon à Dieu pour lui et pour ses pères. Je leur ai rappelé des expériences que j'avais vécues au Japon, où un Allemand demandait pardon à un Français pour le mal que ses parents avaient fait à lui, un Africain du Sud blanc qui demandait pardon à un Africain du Sud noir pour le mal que ses parents avaient fait, et l'Africain du Sud noir, un autre qui demandait pardon à l'Africain du Sud blanc pour ce que lui aussi, pour ce que sa famille avait fait également à des Blancs. J'avais assisté à une sorte d'identification, et quand j'avais partagé un petit peu cela, et puis à un moment donné, quand j'ai eu fini, j'ai demandé à tout le monde de se lever, de toute notre équipe. Et je dis, voilà, maintenant, nous voulons vous demander pardon pour le comportement que nous avons eu avec vous. Nous demandons pardon pour la différence de culture, pour les plaisanteries peut-être qui ont pu vous choquer, pour des choses pour lesquelles nous avons rigolé parce qu'elles nous choquaient. Nous demandons sincèrement pardon de tout notre cœur. Il y a eu un silence de mort dans cet auditoire. Et puis, continuez, nous voulons également vous demander pardon au nom de tous les Blancs qui vous ont fait du mal. Pour ceux qui sont venus dans les un esprit de colonialiste, pour ceux qui ont fait du tort, nous voulons vous demander pardon au nom de tous les Blancs que nous représentons en tant que Blancs. Alors là, le silence était de plomb. Puis, vous savez, on tremblait un petit peu parce qu'on ne savait pas comment ça allait se terminer. C'était la première fois que nous étions là-bas en groupe. Et puis, j'ai continué. Si maintenant vous acceptez de nous pardonner, est-ce que vous permettez que nous venions vous laver les pieds? C'est la seule fois dans ma vie où j'ai fait un truc comme ça. J'ai demandé, les filles sont parties dans la pièce à côté pour ramener des bassins d'eau. Et alors les hommes sont allés vers les hommes, les femmes vers les femmes. Et on s'est mis à genoux devant eux. Et on prit de l'eau. Et je me rappelle ce premier jeune à qui je lavais les pieds. Il tremblait comme une feuille, mais il tremblait autant que moi. Ou moi, je tremblais autant qu'eux. Il y avait à côté de moi un vieux missionnaire, il me dit, je viens avec vous. Il a pris l'autre, lui aussi tremblait. À la troisième personne, c'était plus possible. Le gars à qui j'ai lavé les pieds, il a hurlé de douleur. Il y avait dans la salle une jeune fille, une femme de 18 ans. Il y avait une fille de chez nous qui était en train de lui laver les pieds. « Non, je ne veux pas que tu me laves les pieds, les Blancs, vous êtes tous des... » Et puis, elle dit, « À l'école, on m'a dit, vous nous avez exploités, vous nous avez fait du mal, je ne peux pas croire, vous êtes des hypocrites, vous êtes des hypocrites. » Et elle hurlait là dans la salle, vous savez, c'était terrible. Et la fille, elle ne savait plus quoi dire. Elle avait pleuré autant que l'autre, elle disait, « Je t'aime, tu sais, je t'aime de l'amour du Seigneur. » Et plus elle disait, « Je t'aime », plus l'autre l'insultait. Et plus elle l'insultait, plus elle avait peur, et plus elle avait peur, plus elle disait « je t'aime ». À un moment donné, cette fille qui hurlait, à un moment donné, elle a tellement hurlé, bon, à un moment donné, elle a comme cassé quelque chose, elle a hurlé un cri de douleur, elle s'est précipitée dans les bras de l'autre, et tous les deux, ces deux filles, sanglotaient, sanglotaient, sanglotaient. On a continué de partout les sanglots montaient, Je me rappelle simplement une chose. À un moment donné, je me suis retrouvé à genoux devant un vieillard africain qui était là. Et au moment où je prends ses pieds, je lève les yeux vers lui. Je me regardais d'un regard vraiment incroyable. J'avais l'impression que c'était mon père que je venais de perdre il y a quelques mois auparavant. Au moment où je vois ce regard de cet homme âgé qui me sondait littéralement jusqu'au fond de mes entrailles, à ce moment-là, ça a été trop fort. Au fond de moi, il y a quelque chose qui s'est brisé. J'ai balancé ma serviette, j'ai balancé l'écuelle. Je suis tombé dans ses bras, il m'a pris dans ses bras. Et tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai pleuré. Je suis allé dans un coin, j'étais sur mon banc. Pendant une heure et demie, personne n'a bougé, tout le monde pleurait. Le ciel s'était ouvert ce jour-là parce qu'on avait obéi à cette voie de l'humiliation. Je peux vous dire que toute ma vie de chrétien, je n'ai jamais plus revécu une chose comme ça. Le ciel était ouvert. Il y avait une onction de Dieu que je n'avais jamais vue. Par l'humiliation, l'humilité précède la gloire. Et il y a des moments où vous devez obéir. Il y a des moments quand Dieu vous montre quelque chose, que vous avez à vous humilier. Nous sommes un fichu des êtres fichtrement orgueilleux. Nous devons confesser, reconnaître nos péchés. Vraiment, laisser l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu fouiller au plus profond de nous-mêmes. Mais si à ce moment-là, nous obéissons aux indications qu'elle nous donne, alors vous savez, le ciel s'ouvre.